Radio Prague, les informations.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le bureau du gouvernement demande d'examiner la fuite d'informations secrètes. Violence à l'égard des femmes, le gouvernement a approuvé la signature de la Convention d'Istanbul. Et puis, une enquête menée sur le comportement de la police lors des manifestations islamophobes à Prague. Comme l'a annoncé un des titres, selon le Premier ministre Bohuslav Sobotka, le bureau du gouvernement demande d'examiner de possibles fuites d'informations secrètes de la part du service de renseignement et de sécurité. Ce dernier a été critiqué également par le chef du parti ODS, Petr Fiala, qui estime qu'une fuite d'informations pourrait en avenir mettre en danger la sécurité de milliers de citoyens tchèques. Le bureau du gouvernement a ainsi réagi notamment en raison des informations révélées ce dimanche par l'hebdomadaire Respect qui a dévoilé que le gouvernement tchèque aurait dû verser en mars dernier une rançon de 6 millions de dollars afin de libérer les deux jeunes tchèques enlevés au Pakistan, ainsi qu'en raison des détails échappés sur la négociation relative à l'échange de 5 hommes retenus au Liban contre la libération du Libanais Ali Tahan Fayad, un sujet vivement discuté ces derniers jours par les médias tchèques. Le gouvernement a approuvé ce lundi la signature de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est ce qu'a confirmé le ministre des Droits de l'Homme, Jiří Dienstbier, sur son compte Twitter. Si cette convention internationale, adoptée à Istanbul en 2011, a été ratifiée par la plupart des pays de l'Union européenne, la République tchèque fait partie de 3 derniers États membres, avec la Bulgarie et la Lettonie, à ne pas l'avoir signée. À mi-janvier, les représentants des associations tchèques de défense des droits des femmes ont même présenté une pétition appelant à l'accélération de sa signature. Un tribunal norvégien a ordonné aux services sociaux de rendre un nourrisson de 9 mois à un couple composé d'une mère tchèque et d'un père norvégien, enfant qui leur avait été retiré il y a quelques semaines. Les autorités norvégiennes estimaient à l'époque que les parents n'avaient pas établi un lien assez fort avec cet enfant qui souffre d'une maladie génétique rare. Le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères, Petr Habaň, a confirmé l'information et la ministre, la social-démocrate Michaela Marksová a indiqué que ses équipes allaient continuer à suivre cette affaire qui contribue à empoisonner depuis plusieurs mois les relations tchéco-norvégiennes. Ce n'est en effet pas le premier cas d'enfants retirés à la garde d'un parent tchèque en Norvège. L'inspection générale des corps de sécurité et le présidentium de la police ont lancé une enquête sur le comportement de la police lors des manifestations islamophobes ce samedi à Prague. Outre la radio tchèque qui met en cause le comportement des policiers qui auraient refusé d'intervenir quand les agresseurs se sont attaqués aux véhicules de transmission des journalistes, différents activistes accusent certains policiers de provocation. Si le chef de la police tchèque, Tomáš Tuhý, a souligné que la police avait bien géré la situation, il a néanmoins refusé de spéculer sur des possibles défaillances individuelles. Le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, demande les résultats de l'enquête d'ici dans les 2 semaines à venir. Selon une étude d'Eurostat, la République tchèque représente le pays où l'Internet a été, lors de l'année précédente, le plus sûr des pays de l'Union européenne. Avec seulement 10% des utilisateurs d'Internet ayant des problèmes de sécurité, la Tchéquie a réussi à devancer les Pays-Bas et la Slovaquie. Les pays avec le plus grand nombre de personnes qui étaient confrontées à des problèmes comme virus, abus de données personnelles ou pertes financières sont la Croatie, la Hongrie ou le Portugal. La moyenne européenne a diminué à 25%, ce qui représente une amélioration de 5% contre l'an 2010. L'étude porte sur des personnes âgées de 16 à 74 ans de tous les États membres de l'Union européenne sauf la Roumanie. On se termine comme toujours avec la météo. Le temps reste essentiellement couvert ce mardi, jour de la fête des Apollena. La pluie menace dans l'après-midi et la soirée sur la majeure partie du territoire tchèque. Les températures vont de 8 à 12 degrés pour la maximale. C'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Alžběta Tichá. Merci de votre attention. On retrouve maintenant avec le même plaisir Pierre Ménian qui nous a rejoint au studio et nous accompagne pour la suite de cette émission. Très bonne écoute.
faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute du programme quotidien de Radio Prague, une émission consacrée, vous le savez bien, à l'actualité tchèque. Commençons par remercier Alžběta Ticha pour son bulletin d'information. Au programme de cette édition, on parle des manifestations islamophobes en Tchéquie ce week-end, qui ont été marquées par quelques incidents violents, d'une exposition à propos des panelaks, ces barres de HLM, qui constituent un paysage urbain très répandu dans ce pays, et enfin de football avec le reportage de Guillaume Narguet à Tours, dans ce qui sera le camp de base de la sélection tchèque pour l'Euro 2016. Bonne écoute à tous et à toutes. À l'initiative du mouvement islamophobe allemand Pegida, une journée de manifestation contre les migrants était organisée ce samedi dans différentes villes européennes, dont notamment dans la capitale tchèque. Environ un millier d'individus se sont donc rassemblés aux abords du château de Prague sous les bannières du groupuscule Bloc contre l'islam et du parti de l'Aube, un événement à la marge duquel un certain nombre d'incidents ont été à déplorer, et en particulier l'attaque au cocktail Molotov du centre social autogéré Klinika. En réalité, ce n'est rien d'autre qu'une invasion non armée de centaines de milliers de personnes, essentiellement des jeunes hommes dont nous ne savons rien. Voici en substance le message de Martin Konvitschka, ce professeur de biologie qui fait désormais parler de lui en tant que leader du Bloc contre l'islam et qui s'exprimait samedi après-midi devant ses supporters rassemblés sur la place Hradčanská, où avait lieu la principale manifestation islamophobe de la journée, mais pas la seule, dans le centre ville de Prague, sous le mot d'ordre « Forteresse Europe ». Après la vague des manifestations anti-Roms en 2013, c'est désormais la peur de l'islam et des réfugiés qui fait recette, quand bien même la République tchèque n'est qu'éventuellement un pays de transit pour les migrants et fait face à un nombre de demandes d'asile toujours relativement faible. À l'inverse de ce qui s'est passé à Brno, où une action similaire était organisée par le mouvement fascisant DSSS pour dénoncer là aussi l'action de l'Union européenne, d'Angela Merkel et du gouvernement tchèque, lesquels sont jugés trop permissifs vis-à-vis des réfugiés, la journée a été émaillée d'incidents à Prague où la police a procédé à l'interpellation de plus d'une dizaine d'individus. Dans le cadre du rassemblement au château de Prague, des journalistes de la radio publique tchèque se plaignent ainsi du fait que leur véhicule ait été la cible d'agresseurs qui auraient tenté d'interrompre l'émission de leur programme, le tout sans que les policiers présents sur place ne réagissent. Directeur de l'information pour la radio tchèque, Jan Pokorný, ne veut pas que l'affaire en reste là.
Les agresseurs nous ont dit que c'était notre problème, le problème de la station Radio-Journal, que nous étions responsables, car nous mentirions et que nous devrions venir avec notre propre service de sécurité. La radio tchèque demande à la direction de la police de la République tchèque d'ordonner une enquête sur ces incidents.
Dans le quartier de Malastrana, sous le château de Prague, se tenait une contre-manifestation solidaire des réfugiés avec la participation, par exemple, de Matěj Stropnický, le nouveau président du Parti des Verts. La tension est montée d'un cran quand une bande d'hommes cagoulés, visiblement moins solidaires des réfugiés et plus désireux d'en découdre, est venue au contact du rassemblement avant que la police ne sépare les deux partis antagonistes. Mais la violence a culminé dans la soirée quand une vingtaine d'individus, eux aussi encagoulés, se sont attaqués au centre social autogéré Klinika dans le quartier de Žižkov en jetant des pierres mais aussi des cocktails Molotov, avec pour résultat de blesser une personne et de causer des dégâts à hauteur de quelques dizaines de milliers de couronnes. Dans un communiqué publié sur le net, les membres du centre ont rapidement établi un lien très clair entre ces assaillants et les incidents survenus plus tôt dans la journée et plus généralement avec la diffusion d'idées racistes et xénophobes dans la société tchèque. La police refuse pour sa part pour l'heure de confirmer un éventuel lien entre la manifestation islamophobe de la journée et ces violences. Toujours est-il que l'attaque de la Klinika, centre qui occupe une ancienne clinique sur la base d'un accord dont la question de la prolongation prolongation se pose ce mois-ci et qui propose entre autres activités, des cours de langue, des ateliers de travail, des concerts, mais qui gère par exemple aussi une collecte de vêtements en faveur des réfugiés. Cette attaque a suscité de nombreuses réactions indignées et plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche pour exprimer leur solidarité avec le collectif. Parmi elles, le ministre en charge des droits de l'homme, le social-démocrate Jiří Dienstbier, qui s'inquiète de la montée des sentiments haineux en Tchéquie.
Jde o obrovský strach, který nemá racionální základ, protože situace v České republice.
Il s'agit d'une peur énorme qui n'a pas de base rationnelle parce que la République tchèque est un pays sûr. Le seul risque qui augmente est celui lié à cette haine, à ces actions extrémistes. Samedi, cela en était une des illustrations. Le problème, ce n'est pas seulement cela, c'est ce que nous entendons dans différents rassemblements, les appels à la haine. Ce dimanche, j'ai moi-même été la cible d'appels à ma pendaison ou à ma liquidation physique sur Facebook et ce sont des choses qui sont désormais courantes. Je ne crois pas que cela soit normal. Cette atmosphère commence vraiment à rappeler la façon dont je me représente celle des années 1930. Nous savons tous où cela a mené et je pense que personne ne souhaite répéter cette expérience historique.
Každý víme a myslím si, že tuto historickou zkušenost opakovat nechceme.
Quelques politiciens tchèques, dont le Premier ministre Bohuslav Sobotka, pointent du doigt la responsabilité du chef de l'État, qui, à force de déclarations anti-migrants et anti-islam, contribuerait à attiser le feu dans une société tchèque de plus en plus polarisée sur le sujet de l'accueil des migrants. Jusqu'au 10 mars prochain, la Galerie 35 de l'Institut français de Prague présente une exposition intitulée Panelak, qui présente le travail d'une photographe française vivant à Prague, Sophie Knittel. Elle s'est intéressée à ces grands ensembles de banlieues des villes tchèques, symboles de la vie collective et organisée de l'époque communiste, et qui, s'ils ont des jumeaux en France ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, ne témoignent pas de la même réalité. Au micro d'Anna Kubista, Sophie Knittel est d'abord revenue sur la définition du Panelak.
Les Panelak, en fait, est le bâtiment en lui-même qui fait partie des grands ensembles qui sont tout autour, qui sont dans Prague et tout autour de Prague et dans la plupart des villes de République tchèque. Et c'est aussi en fait leur construction spécifique. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui sont composés de panneaux en béton qui est pré-pressé et qui sont préfabriqués. Donc en fait qu'on emboîtait un petit peu comme on dirait du Lego ou du Duplo. Et c'est une technique de construction qui avait été développée dans les années 30, 40, voire 50, et qui en fait était une façon d'ériger des bâtiments très très rapidement, ce qui était nécessaire à l'époque puisqu'il y avait un gros problème au niveau du logement. Il n'y avait pas assez de logements post-guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
Qu'est-ce qui vous a fasciné justement dans ces Panelak, puisque évidemment ce genre de, on va dire en France, on pourrait comparer ça à des HLM, mais la comparaison s'arrête simplement, on va dire, à l'aspect architectural, puisque ça recouvre pas du tout les mêmes réalités sociologiques. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans le phénomène tchèque des Panelak?
Ce qui m'a intéressé, c'est que effectivement, généralement, quand on voit des photos de Prague, on voit toujours les jolis bâtiments baroques, cubistes, Art nouveau, Art déco, etc. Donc c'est très bien. Cependant, c'est quand même 40% de la population vit en Panelak, ce qui n'est pas neutre. Alors j'ai découvert effectivement en faisant mes recherches que non, je n'étais pas la seule à être sensible au Panelak et à ce phénomène en fait historique, culturel, social. Et donc j'ai approfondi un petit peu la chose et c'est vrai que je me suis aperçue que l'idée qu'on pouvait en avoir en tant qu'Européen de l'Ouest occidental était tout à fait erronée par rapport à la réalité en République tchèque, puisque ce ne sont pas du tout des cités, ce sont des grands ensembles qui avaient une mixité sociale très importante et où la classe moyenne reste prédominante dans ces bâtiments.
Quand on regarde les photos donc qui sont exposées ici à l'Institut, à la Galerie 35, alors déjà, il faut dire que c'est une espèce de collage ou une espèce de mosaïque de vos photos, mais aussi de photos d'archives. Il y a plein de petites scénettes, on va dire, rigolotes que vous êtes allées puiser finalement dans les archives, notamment par exemple on voit des gens qui se bronzent sur un Porsche, voilà, ou alors une photo qui est incroyable, on voit justement des panélaques donc à Hayé, qui est la plus grande, le plus grand espace à Prague, avec des panélaques où on retrouve une espèce de symétrie avec des columbariums. Qu'est-ce que vous avez justement découvert en faisant vos recherches et en vous baladant dans ces panélas qui vous ont fasciné par rapport, je ne sais pas, à d'autres endroits ?
En fait, c'est ça, c'est que c'était vraiment très, très contenu quelque part. C'est-à-dire que c'était vraiment un petit village. C'était conçu comme un petit village avec donc ses habitations. Il y avait aussi les commerces, il y avait les écoles, il y a toujours une polyclinica. On peut vraiment tout trouver, et dont aussi effectivement des columbariums. C'est-à-dire que on pouvait naître, grandir, aller au travail, jouer et revenir, etc., et même mourir dans cet endroit sans, à la limite, sans en sortir. Donc ça, c'était assez fascinant. Parfois, effectivement, un petit peu interloqué, mais voilà, ça semble être la façon dont ces espaces ont été conçus, qui était vraiment pour que tout le monde puisse y vivre et y rester aussi longtemps et aussi sereinement avec tout sous la main.
Est-ce que ça fonctionne encore, ça, aujourd'hui ?
Ça fonctionne encore, mais un des problèmes, c'est que effectivement, les panélas qui étaient donc des endroits qui étaient les habitants des panélas. Il y avait une grande mixité sociale, mais c'était très homogène au niveau de l'âge. Donc le problème que les panélas ont maintenant, c'est qu'ils sont très vieillissants. Les gens qui ont d'abord emménagé dans ces panélas, c'était des gens qui étaient jeunes, généralement des jeunes couples avec des jeunes enfants, et donc ils ont commencé à vieillir, ils continuent à vieillir. Et du coup, les panélas deviennent une synchronicité du vieillissement des habitants des panélacs qui est assez effarante, et du coup il y a beaucoup moins de jeunes qui y sont, ce qui fait que c'est beaucoup moins dynamique, ce qui se remarque aussi donc effectivement dans toutes les écoles qui, où il n'y a plus beaucoup d'enfants qui y vont, ainsi que dans les commerces qui sont donc il y a un certain manque de dynamisme qui fait que certains vraiment deviennent de moins en moins bien maintenus, et effectivement ce manque d'énergie au niveau des commerces et de la vie qui est dans ces panélacs.
On passe à la rubrique sportive animée par Guillaume Narguet. Les joueurs et l'encadrement de l'équipe nationale tchèque de football ne le savent probablement pas, mais en choisissant Tours comme camp de base pour le championnat d'Europe en France en juin prochain, c'est dans une ville où les Tchèques sont déjà très appréciés qu'ils logeront et s'entraîneront. Les Tchèques, ou plus précisément les volleyeurs tchèques, dont quelques-uns ont porté le maillot du Tour Volleyball ces dernières années, et notamment un joueur tchèque, David Konechny. Depuis son arrivée dans la capitale de la Touraine en 2007, David Konechny a été sacré pas moins de 5 fois champion de France, et ce n'est pas peu dire que le public tourangeau apprécie son capitaine à tchèque. Un reportage de Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Ben David, un super joueur. C'est le maître à jouer. C'est un super gars. Nous, il parle comme si je vous parle là. C'est une super personne. Pas fier, rien du tout. Très gentil. Très sociable et tout ça. Non, mais c'est un super joueur.
La vedette, effectivement, la vedette de l'équipe qu'on connaît depuis combien de temps ?
Depuis 7 ans.
Oui, c'est un super joueur. Et c'est notre chouchou à nous. Super service, super smatché, voilà.
Voilà, si la vérité sort de la bouche des enfants, les compliments, eux, à l'attention de David Konechny, sortent à l'unisson de la bouche des supporters du TVB. Qu'ils s'appellent Roger, Pascal, Pierre, Frédéric ou Chantal, tous sont unanimes. Son compatriote et jeune coéquipier Adam Bartos confirme que parler d'un phénomène Konechny à Tours, ne serait-ce que dans les alentours de la salle Grenon, là où évolue le quadruple champion de France de volleyball en titre, n'est en rien exagéré.
David Konečný.
Ten je tady superstar a on je tady 7 let, má 9-10 titulů, takže...
Ici, c'est une superstar. Il a remporté plein de titres avec le club et tout le monde le connaît. C'est le capitaine et un pilier.
Abonnés de longue date, Chantal et Frédéric, un couple d'une cinquantaine d'années pour lesquels les matchs du TVB constituent plusieurs fois par an une agréable façon de passer les soirées du samedi, admettent qu'avec l'accumulation des titres et des saisons, ils ont aujourd'hui bien du mal à imaginer la vie de leur club favori sans David Konečný.
Ça va être difficile, parce qu'il n'est pas éternel. Il y a bien un jour, il faudra qu'on apprenne à s'en passer, mais pour l'instant, c'est un joueur parfait, très professionnel, dont on a du mal à imaginer le départ.
Quelles sont selon vous ses principales qualités ?
Je pense à sa conscience professionnelle, il est toujours très impliqué. On n'a vraiment rien à lui reprocher sur le jeu.
Excellent capitaine.
Oui. Il arrive après notre titre européen, mais après il permet de construire tout le palmarès du championnat de France. Tout s'est fait avec lui effectivement, et puis c'est la stabilité du club. On a changé plusieurs fois de passeur, mais lui est là depuis 2007, c'est la stabilité du TVB, c'est sûr.
Il est toujours là quand on l'attend.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est également connu à Tours, en dehors du club ?
Le rayonnement de David Konečný en dehors du club ?
Oui, parce qu'il a une vie tout à fait simple. Il fait ses courses au supermarché. C'est vraiment quelqu'un de... qui est pas du tout, qui vit pas dans sa bulle, quoi. Il est parfaitement intégré, toujours souriant, toujours prêt à répondre aux questions. Ah ouais, abordable, ouais.
Arrivé à la tête de l'équipe en décembre dernier, après une première partie de saison au cours de laquelle les résultats ne répondaient pas aux attentes des dirigeants, Vital Heinen, le nouvel entraîneur belge du TVB, a appris à connaître David Konečný. Ancien coach de l'équipe nationale d'Allemagne, avec laquelle il a décroché la médaille de bronze aux dépens de la France au dernier championnat du monde en 2014, Vital Heinen admet lui aussi le rôle primordial de son capitaine tchèque, même s'il formule ses compliments avec son regard et son analyse de technicien.
Vous voulez entendre quelque chose que je n'ai jamais dit, parce que pour moi, tous les joueurs, les joueurs sont de même importance. Et c'est pas toujours le joueur qui fait la plupart des points qui est le plus important. Mais pour donner une réponse sur votre question, David joue un rôle important. Mais il y a beaucoup de joueurs d'après moi. Ça c'est toujours moi. Je ne veux pas avoir un joueur. Et aujourd'hui, je jouais un match très bien, très bon. Aujourd'hui, 3 jours passés pas si bon, nous avons gagné aussi. Ça c'est le système. Je ne crois pas à un joueur. Mais de David Konečný, c'est vraiment, il était vraiment un bon joueur, vraiment. C'est pas grand parce qu'il n'est pas grand, hein, mais c'est un joueur qui avec vraiment un bon technique. Il a la capacité de chercher l'angle où il attaque. Il peut être diagonal, la ligne, il a cette capacité. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette capacité de chercher la langue à force. Et ça, c'est d'après moi son meilleur point. Il n'était pas, d'après lui, il n'était pas bon en bloc. Mais chez moi, le 7 match, il était le meilleur en bloc jusqu'à maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou... Je ne sais pas, mais il fait ça très bien. Et c'est clair que le point toujours joue un rôle vraiment important dans l'équipe.
C'est un joueur qui est présent depuis 7 ans maintenant à Tours. L'équipe a accumulé depuis les titres. Vous arrivez dans une position un peu différente puisque l'équipe a connu des difficultés cette saison. Est-ce que vous comptez sur l'expérience d'un joueur justement comme
certainement. Il était capitaine et quand je suis arrivé, j'ai directement dit qu'il est capitaine. Ça veut dire que c'est lui, un entraîneur, veut seulement donner des idées. Je me trouve que je dois inspirer les joueurs. Ce sont les joueurs qui doivent faire tout. Et là, il joue un rôle vraiment important parce que je crois que le joueur est le plus long ici. Il connaît tout. Et aussi chez moi, il a un rôle important dehors le terrain. Je suis un entraîneur qui donne la possibilité aux joueurs d'arranger tout, l'entraînement, etc. Ça, c'est son responsabilité. Sa responsabilité. Il fait très bien. Ça peut un peu pour régler, mais c'est un joueur tchèque. Je connais beaucoup de joueurs tchèques. Tous les tchèques sont un peu calmes. Hein? Moi, je suis un Belge, mais pas un vrai Belge, je parle toujours. les Tchèques sont toujours des joueurs un peu calmes. J'ai connu très beaucoup de joueurs comme Lebel, Platinek, Holubek, Popelka. J'ai joué avec ou j'ai entraîné beaucoup de joueurs tchèques et ça, c'est en général, ils sont que tu peux, comment dire, tu peux. Il est facile à travailler avec eux parce qu'ils font ce que tu demandes toujours. Ils sont là. Parfois, d'après moi, ils sont un peu trop calmes. Je ne sais pas si c'est une qualité ou quelque chose de tous les Tchèques. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas Tchèque. Vous n'êtes pas Tchèque. Je ne sais pas si tous les Tchèques sont les mêmes. Peut-être après quelques bières, mais je ne vois jamais les Tchèques. Après, je ne veux pas qu'ils boivent de bière, alors je ne sais pas. Mais en général, ils sont un peu calmes, je trouve.
Un entraîneur belge qui empêche ses joueurs tchèques de boire des bières,
et bien, parfois, boire une bière est intéressant. Je dis toujours une histoire. La première fois que j'ai parlé avec Jiří Popelka, c'est un joueur tchèque, hein, il a demandé en Belgique une bière. Et en Belgique, tu bois de bière de 25 centilitres. Et il a pris directement 10 millilitres. Hein. Et tu dis, wow, qu'est-ce qu'il fait? Mais pour le tchèque, c'était vraiment normal de boire 10 millilitres. C'est comme le petit déjeuner, tu bois 10 millilitres. Hein, parce que c'est. Les Tchèques ont le nom de boire beaucoup, c'est pas vrai, mais ils ont besoin parfois d'une bière. Et ça, je trouve. Tout le monde a son propre identité, sa propre culture. Pour moi, c'est pas un problème de boire parfois une bière. Pas tous les jours, mais aujourd'hui, les Tchèques doivent boire une bière.
Ce soir, il y avait pour ce match donc Tourbeauvais, deux joueurs tchèques dans votre équipe, deux joueurs tchèques dans l'autre équipe également, notamment Houdetchek, Andrzej Houdetchek. Ça fait déjà depuis quelques années, on voit beaucoup de joueurs étrangers dans le championnat de France, mais notamment beaucoup de joueurs tchèques. Comment expliquez-vous cet intérêt des clubs français pour ces joueurs-là?
Ce n'est pas si difficile à expliquer. Hein. Il y a quelques entraîneurs tchèques ou slovaques qui ont travaillé ici, ils ont commencé à avoir des joueurs tchèques ici. Le tchèque, comme je dis, sont vraiment des tu peux avoir confiance, ils sont vraiment faciles à travailler. Alors, c'est normal pour moi que les équipes sont heureux avec eux. Et je crois que le niveau du volleyball en Tchèque, certainement économiquement, n'est pas le même qu'en France. Pour le Tchèque aussi, c'est un bon choix de venir ici. Et la vie en général en France n'est pas mauvaise. Je crois que ça joue un rôle aussi.
Un mot également sur le deuxième joueur tchèque de votre effectif, Bartosz, ce soir
on n'a presque pas joué.
Oui. Donc un mot, c'est sa deuxième année ici à Tours. Quelles sont selon vous ses perspectives?
Ouais, il a le même problème que tout le tchèque, il est trop calme. Mais il a beaucoup de capacités, il travaille très 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 dur. Je suis vraiment content de lui. C'est quelqu'un de ces joueurs qui travaille le meilleur de mon équipe. C'est le meilleur de mon équipe comme il travaille, c'est vraiment vraiment agréable à travailler avec. Et quand il a la capacité de rester comme ça, de faire l'entraînement comme ça, il va jouer dans une période. Mais le volleyball n'est pas un sport si vite. Tu ne vas pas jouer dans 2 mois, tu vas jouer dans 2 ans. Il va devenir un bon joueur. Quand il reste comme ça, il va devenir vraiment un bon joueur. Fais attention.
Un nouveau Konechny à Tours?
Pas Konechny, c'est un autre type parce qu'il joue réceptionneur. Mais d'après moi, il a la capacité de rester aussi 7 ans aussi, certainement.
Et si tel est le cas, l'histoire d'amour entre Tours et ses volleyeurs tchèques n'en est donc pas encore à son dernier épisode.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui s'achève avec la rubrique sportive de Guillaume Narguet qui nous a une nouvelle fois conduit sur les bords de la Loire à Tours. Merci d'avoir suivi ce programme que vous présentait Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site internet au www.radio.cz/fr ou nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou bien sur Twitter. À très bientôt. Ahoy !